Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec le journaliste Daniel Riolo, le journaliste Thierry Moreau et le sociologue Julien Damon, professeur à Sciences Po et à HEC. Dans un instant, on parlera de ces salariés, 1 sur 3 quand même, prêts à diminuer leur salaire en échange de la semaine de 4 jours. Seriez-vous prêts à travailler moins pour gagner moins? C'est la question qu'on vous pose et vous pouvez y répondre au 3216 ou sur l'application RMC. Il y aura vers 14h30, RMC s'engage pour vous avec une enquête sur des fromages potentiellement contaminés à la listeria. 5 cas graves ont été identifiés. Et puis on terminera comme chaque jour, Rémi, avec les immanquables.
Oui, on parlera notamment de la baisse du chômage ou encore de la démission en cascade d'élus locaux, notamment en Loire-Atlantique.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi au proverbe du jour. Vous connaissiez le célèbre « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy. Eh bien, place désormais au « Travailler moins pour gagner moins ». Un tiers des salariés français seront en effet prêts à diminuer leur salaire en échange de la semaine de 4 jours, Rémi.
Oui, pour équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. On avait vu la tendance être de plus en plus marquée, notamment après la période de Covid. Et certains y sont déjà passés, mais c'était même avant la période de Covid. C'est le cas, par exemple, de la société JC Logistique. Elle est basée dans les Vosges, spécialisée dans la location d'engins. Et sur les 40 salariés et 10 intérimaires de l'entreprise, un tiers travaille sur un rythme de 4 jours par semaine. Mais là, attention, sans perte de salaire. Les journées sont juste plus longues, 9 ou 10 heures, avec une pause de 1 heure le midi. Spécialisée dans la prestation de services numériques, l'entreprise lyonnaise IT Partner est-elle également passée en janvier 2021, de 35 à 32 heures hebdomadaires. Là encore, à salaire égal, les 80 salariés ne travaillent plus que 4 journées par semaine, rallongées d'une demi-heure par équipe, selon un calendrier trimestriel concerté. Et puis, autre exemple, là, il est plus vaste en France, avec l'entreprise de conseil et de technologie Accenture. Les 10 000 salariés français du groupe ont fait le choix de travailler 4 jours, 4 jours et demi ou 5. Ils ont le choix. Les salariés qui travaillent une journée ou une demi-journée de moins, en fait, là encore, reportent leurs heures sur les 4 jours travaillés. L'idée fait son chemin, en tout cas un peu partout en Europe, et des expérimentations sont actuellement en cours, à plus ou moins grande échelle, en Grande-Bretagne, en Espagne ou encore en Belgique.
Seriez-vous prêt à travailler moins pour gagner moins, Julien Damon?
Oh ben moi, je fais ce que je veux. Donc, si je veux réduire mon temps de travail, ça réduira une grande partie de mes revenus. Ce que j'observe là dans ce que Rémi nous expose, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a parfois simplement de l'aménagement du temps de travail et chacun change son organisation dans le travail, chez Accenture en particulier. Et dans d'autres entreprises, alors c'est peut-être plus généreux de la part des entrepreneurs, c'est vraiment une sorte de don qui est fait. Comme quoi, ça n'est pas que de la lutte sociale, c'est aussi des patrons progressistes.
Oui, Ceci dit, parce qu'ils savent que la productivité va être meilleure, c'est pas les philanthropes.
En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Ceci dit, avant que Daniel entonne son grand chant anti-France sur le travail, je veux dire qu'il y a un sujet français sur le travail. Sur le travail, nous sommes en Europe le pays qui travaille le moins. C'est-à-dire que en moyenne, par an, un Français travaille 1600 heures. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 1800. Ça, c'est sur le nombre d'heures. Sur les taux d'emploi, nous sommes le pays où il y a le moins de travailleurs, surtout parmi les jeunes, surtout parmi les personnes qui sont les seniors. C'est tout à fait exact. Il suffit de regarder la tribune. Oui, Jean Perrault Vlad, ce matin, dans les échos.
1607 heures, c'est un gauchiste. Sur la base de 35 heures. Or, le travail des salariés effectifs, c'est 36 heures.
Très bien. Et alors après, dans la tribune, tu peux trouver aussi le fait qu'il y a des salariés d'un côté, il y a des indépendants de l'autre qui travaillent plus de 2000 heures. Donc, au-delà de ça, globalement, quand les chiffres ne conviennent pas, on dit qu'ils ne sont pas vrais, les Français travaillent peu. Et le problème, c'est qu'ils n'aiment pas le travail. Le vrai problème français, c'est qu'on n'aime pas le travail.
Laissez-le finir. Il a raison, laissez-le finir.
Je vais le dire sans chiffres. Moi, une expression qui m'horripile, c'est, elle est très simple, c'est comme un lundi. C'est insupportable.
Et pourquoi?
Les gens sont là. Parce que ça veut dire que, ah ben, on chouine.
A priori, tu as un rapport qui est mauvais, il a raison.
Ça veut dire que ça va mal le lundi parce qu'il faut que j'attende le vendredi pour partir en week-end. Donc la vie de beaucoup de Français, et je trouve ça tragique, c'est le mot qui me vient à l'esprit et qui est profond, c'est tragique, c'est qu'ils commencent à travailler maintenant dans la retraite et ils commencent la semaine. Bon, c'est une tragédie quand même assez embarrassante que de passer l'essentiel de sa vie active à attendre les moments où on ne va pas travailler. Et comme un lundi, c'est une expression tragique.
Bah, excusez-moi, voilà. Mais pas, tout le monde n'a pas le même travail. Julien Damon,
personne ne dit le contraire.
Mais non, mais attends, Julien, je suis désolé, il y a des métiers où effectivement tu peux être content d'attendre le week-end pour voir tes enfants, ceux qui travaillent en 3-8, par exemple, ceux qui ont des métiers difficiles.
Mais personne
moi, je comprends qu'ils ne soient pas très contents d'aller au travail, même s'ils travaillent beaucoup.
Certes, mais par rapport à d'autres pays où les conditions de travail sont. Nous sommes ceux
L'Espagne,
qui critiquent en plus
la semaine de 4 jours, par exemple. Ils en sont très contents.
Ils le testent sur quelques entreprises, le test, etc.
Pas quelques entreprises, c'est des milliers d'entreprises en Espagne.
Je sais pas ce que j'ai à l'esprit comme.
Si, je vous assure.
Et puis, de toutes les manières, je veux bien qu'on dise c'est pas vrai, etc. Là, c'est globalement des données très simples. Nous travaillons le moins et nous sommes ceux qui critiquons le plus notre travail en France. Je trouve ça pas tragique, si vous voulez, mais triste. Encore que, comme un lundi.
On est également le pays qui conteste le plus.
Tu oublies juste une donnée, c'est qu'on est aussi des pays qui est plutôt plus productif que les autres pays.
C'est le mythe absolu
que
je rappelle ça. Mais pas du tout.
C'est une légende, ça. C'est une légende.
C'est pas une légende.
De ce matin simplement, moi j'en ai ras-le-bol.
En Allemagne, ils sont bien plus productifs que nous à l'heure.
On voit où ils en sont actuellement. L'Allemagne, ils sont en récession et pas nous. Donc,
moi j'en ai ras-le-bol des gens qui disent.
C'est le plus gros PIB de l'Europe. Enfin bon, bien.
J'en ai ras-le-bol des gens qui disent les Français ne travaillent pas. La plupart des gens aujourd'hui, un, ils aiment leur travail. Deux, ils vont travailler. Et ils ont besoin de travailler et ils cherchent du travail quand ils en ont pas. C'est un poncif de dire qu'aujourd'hui les gens sont des feignants. Je pense que c'est absolument pas du tout. Voilà.
En revanche,
sur quoi tu reposes pour dire ça
c'est vrai. Sur quoi tu reposes pour dire ça
Mais laissez-le tranquille.
Parce que ce sont des excusez-moi.
Non, mais il y a plein d'études qui disent le contraire, Thierry. Je suis très étonné de toi.
Qui est quelqu'un qui est plutôt précis. La plupart des gens aujourd'hui, ils n'aspirent qu'à une chose, c'est avoir un travail et un travail.
Il y a des chiffres.
Non.
Laissez-le finir.
La productivité, il dit que c'est pas vrai. Conteste les chiffres. Il fait exactement ce qu'il reproche
à l'autre. Non, c'est pas vrai.
Les chiffres qui ne vont pas dans son sens. Donc, de toute façon, peu importe. Moi, je trouve que l'idée de pouvoir faire en 4 jours le travail qu'on fait en 5, c'est-à-dire l'aménagement du temps de travail, est une très bonne idée. Parce que on est plus productif, on a plus de temps de repos et donc on revient en meilleure forme au travail. Et donc, l'idée, il n'y a pas de mystère. Travailler plus pour gagner plus, travailler moins pour gagner moins, tout ça, c'est des slogans politiques et des formules à la con. Il faut travailler un minimum pour gagner un maximum. Enfin, ou un minimum.
Alors pourquoi pas et la semaine à une journée?
Justement, de travailler 4 jours, de concentrer son travail sur 4 jours pour avoir 3 jours de repos, je trouve que c'est une très bonne idée.
Pour ceux qui peuvent
et je
le
suis
faire.
Pour ça. Et je voudrais rajouter qu'une chose, c'est que c'est une des pistes d'amélioration du texte sur la loi sur les retraites, parce que un syndicat, en l'occurrence la CFDT, explique que ça serait bien que les seniors, arrivant à un certain stade de leur âge, on leur permette de travailler, par exemple, au 4/5e ou au 3/5e ou à mi-temps.
Ça doit être un choix de chacun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas t'imposer ça.
Bien sûr, un choix de chacun, bien sûr. Il faut pouvoir choisir. Mais le travail, de toute façon, la valeur travail, c'est quand même un truc de droite, de par un
voilà, c'est dégueulasse. Je suis de droite.
Alors ça, tu pourrais dire
ça, Thierry. Valeur travail, les gens de gauche disent c'est de droite. Ok, il y a un sujet, c'est valeur travail.
Donc quand tu es de gauche, tu dois détester ton travail. Le travail, c'est terrible.
Je suis premier à dire qu'il faut travailler et qu'il faut être justement rémunéré pour son travail.
Alors je vois la veine jugulaire de Daniel Riolo qui est en train de gonfler dangereusement. Je pense que Thierry Moreau a énervé Daniel. Mais Daniel, est-ce que vous, par exemple, vous seriez favorable à la semaine de 4 jours en entreprise plutôt que 5 jours ?
Il y a deux choses et je ne vais pas tomber dans le piège de Thierry. Tout ce qu'a dit Rémi, je trouve ça formidable.
Oui.
Si des entreprises parviennent à se mettre d'accord entre patrons, salariés, on fait 4 jours, on travaille un petit peu plus. Tout ce qui est aménagement du temps de travail, c'est géré à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ce sont eux qui gèrent leur productivité. Le fait que le travail soit bien fait, le fait que le salarié soit content, je trouve ça formidable. Je milite, moi, pour des accords intra-entreprise pour que tout le monde soit épanoui, justement, dans le travail, parce que j'en ai marre d'entendre que les gens ne disent ne pas être heureux au travail. Donc, tout ça, je trouve que ce sont des initiatives modernes, positives. C'est très bien. Maintenant, l'autre débat qui va un petit peu au-delà, celui qu'introduisait Julien il y a 2 secondes. Ça, oui, c'est indéniable, c'est culturel, c'est historique en France, le problème par rapport au travail. Toutes les études le montrent. ce qu'a voulu dire Thierry en me provoquant, effectivement, que le rapport au travail est très politisé, qu'on est le pays.
Tu peux être de gauche et
je le rabâcherais sans arrêt. Les idéologies d'extrême gauche pénètrent dans notre société plus que dans tout autre pays occidentaux. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en France, il y a plus de 30% des gens qui se disent contre même l'idée d'économie de marché. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de
ça, c'est
tout
autre
ce que
chose,
ça...
on s'en fout, ça.
Non, ça n'est pas travail, autre là. Chose. Si. Ça implique tout ça. Non. Ça participe de cette idée que le travail, c'est de l'exploitation, qu'on ne peut pas être heureux au travail, qu'on n'a pas envie de travailler, tout ça. C'est la même chose, c'est la même idée.
Mais encore une fois, ça dépend de
mais ça
travail,
n'est pas le débat. Le débat, c'était plus que Rémi a mis en avant. Et ça, j'ai aucun problème. Je trouve ça, toutes les initiatives, c'est très bien.
Il y a une majorité de nos auditeurs qui sont contents de travailler, qui simplement, quelquefois, voudraient être mieux travaillés pour un travail difficile. Ça, c'est un vrai truc, parce qu'on en parle ici tout le temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail.
Ça, c'est autre chose.
Aujourd'hui, les Français sont courageux, travailleurs,
avec toi.
Et ne demandent qu'une chose, c'est travailler.
Tout ce qui est profession, toutes les professions qu'il faut mieux reconnaître, mieux payer, tout ça, je suis d'accord. Une nouvelle organisation, même des dépenses publiques pour pouvoir justement prendre à un endroit et donner, notamment dans les hôpitaux. Tout ça, je suis d'accord avec toi. Je parle juste du rapport au travail.
Si Thierry vient de dire que les Français voulaient tous travailler, etc. Notre précédent débat sur la retraite montre le contraire. Les Français ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Donc on ne peut pas dire que les Français veulent travailler, sont travailleurs, etc.
Ils veulent travailler, mais pas à n'importe quelle condition.
C'est pas n'importe quelle condition. Mais ce n'est pas des sujets de conditions.
On est le pays où on rentre le plus tard et où on sort le plus tôt du marché du travail, Estelle. C'est une réalité.
C'est pas une volonté des gens.
25 ans à la retraite, je le répète.
Non, il y a un sous-emploi des seniors. Alors, c'est pas une volonté des gens.
Mais oui.
C'est pas une volonté
des gens. On rentre le plus tard, on sort le plus tôt.
Oui, mais le plus tôt, la plupart des gens qui sortent le plus tôt,
c'est pas vrai. Il y a le système des prêts-retraites. Tout le monde a couru après les prêts-retraites. Tout le monde a couru en se disant formidable, je vais pouvoir sortir.
Va dire ça à tous les auditeurs qui cherchent du boulot depuis des années, qui ont aujourd'hui 50, 52 ans, 53 ans.
Ils sont pas à la retraite, eux, on est bien d'accord.
Non, mais justement.
Voilà.
Non, mais le problème. Tu dis qu'en France on part plus tôt parce que il y a un sous-emploi, on le sait, c'est très bien, des seniors.
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un sous-emploi des jeunes, un sous-emploi des seniors.
Peut-on avoir des messages sur de nos auditeurs? Merci Rémi.
De Courte qui nous dit travailler moins pour gagner moins, d'accord, seulement si nos charges mensuelles baissent aussi, ça sera pas le cas, donc il faut déjà travailler pour gagner normalement.
Surtout qu'on n'oblige personne à faire ça, Rémi, c'est ça l'histoire surtout.
On est d'accord. Il y a aussi le Lost, c'est son pseudo sur Direct Studio toujours, qui nous dit, moi j'ai travaillé notamment en Norvège et en Grande-Bretagne, et là aussi le lundi on dit vivement le vendredi.
Voilà ce sortez un peu de chez vous, sortez de Sciences Po et sortez de la chaussée. Évidemment, là, vous restez là dans votre. Mais oui, dans votre petit monde, histoire. Alors bien sûr.
Mais chacun est persuadé que son monde, c'est celui qui connaît tous les autres mondes. Je veux simplement dire que pour moi, quand j'étais en Angleterre, je n'ai jamais entendu l'expression comme un lundi. Jamais.
Oui, parce que non, vous restez
et donc, ce monsieur,
c'est
pour
ça que t'as pas entendu.
En Norvégien, je sais pas comment on dit, mais je suis sûr qu'en Norvège et en Angleterre, il disait ça en français avec ses potes français.
Allez, ce dernier message d'Alex qui est un message gratuit. Hein, vous êtes tous des feignants, sauf Daniel.
Voilà. Merci.
Pardon.
Ah oui, c'est ce
exactement.
Dit.
Ouais,
il travaille que 3 jours par semaine.
C'est vrai.
Incroyable, il travaille que le soir en plus.
Non, bon. Tous les jours.
On est avec Thomas qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thomas.
Bonjour. Bonjour à tous.
Thomas, qu'est-ce que vous pensez de la semaine de 4 jours, vous?
Alors moi, je suis quand même pour. J'ai toujours été pour. Pas forcément pour travailler moins. Comme je disais. À notre opérateur de salaire, moi je suis directeur d'une agence en téléphonie.
D'accord.
Et on a testé sur une courte période, puisqu'après ça nous est interdit, mais de travailler 8h45 dans la journée sur 4 jours. Comme ça on faisait 35 heures, on ne perdait pas de salaire. Sur l'équipe, tout le monde était content. Effectivement, il y a une personne qui n'était pas forcément pour, parce qu'effectivement, avoir 3 jours de repos pour eux c'était trop. Bon, je peux l'entendre.
Ouais, c'est un Français qui voulait travailler ça.
Oui, bah après c'est aussi.
Ou un Français qui savait pas quoi faire de son temps libre en fait.
Oui,
peut-être qu'il avait pas Netflix lui.
Mais c'était 1 sur combien Thomas?
1 sur 12.
1 sur 12, ouais, bah donc c'est quand même une toute petite minorité. Et alors pourquoi est-ce que vous avez pas réussi à rester à la semaine de 4 jours?
Bon, parce qu'après au niveau du siège, on nous a interdit de passer sur 4 jours, tout simplement. J'ai pas étonné dans un bout de sang, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est fait comme ça. Et puis après on a essayé de contourner en faisant 7h45 par jour et une journée de 4h, tout simplement.
Et est-ce que Thomas, lorsque vous avez expérimenté cette semaine de 4 jours, est-ce que vous étiez plus heureux?
Ah ben moi clairement, parce que ça nous évitait tous des trajets en moins.
Bien sûr. Ah oui, c'est rare.
Mine de rien, oui.
Et il y en a qui viennent de loin.
Tout à fait.
Il y en a qui font beaucoup de. Enfin, en Bouches-du-Rhône, ben moi qui suis né, qui ai grandi à Paris, maintenant que je suis dans les Bouches-du-Rhône, c'est forcément la voiture. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions en tous les cas. Et forcément, c'est du trajet, c'est l'usure de la voiture, c'est l'essence. Mmh.
C'est
donc,
ça.
Tout le monde était plutôt content d'avoir
des bouchons aussi.
Oui, c'est
des
ça, ça t'évite une fatigue que vous avez plus au travail et puis tu peux aller chercher aussi.
Et encore une fois, si
ça économise parfois la crèche, la nourrice, etc.
Si les entreprises se mettent d'accord, moi je trouve que c'est formidable.
Et puis aussi, un truc, c'est que ça relance la consommation parce que ça fait. Quand tu es au travail, tu ne vas pas aller acheter, aller dans un magasin, etc. Où souvent tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu n'as pas envie de faire la cuisine et tout ça. Tandis que là, tu vas en profiter pour faire soit des activités, soit peut-être.
Ah, mais après, si tu dépenses trop, tu as moins de pouvoir d'achat.
Non, mais tu dépenses pas trop, mais tu dépenses différemment. En tout cas, tu peux consommer plus.
Tu gères ton temps.
De quoi ?
Tu gères ton temps.
Tu gères ton temps et tu peux consommer plus. Mais toi, Thomas, il le disait, il a été plus heureux sur une semaine de 4 jours qu'une semaine de 5 jours. Merci Thomas, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci pour ce témoignage. On a également Ondine, qui nous appelle d'Artigues, près Bordeaux, en Gironde. Bonjour Ondine.
Bonjour tout le monde.
Et Ondine, alors vous êtes en train d'expérimenter la semaine de 4 jours. Ça se passe comment ?
Mais c'est super. Mais vraiment, j'en suis super heureuse. Je travaillais avant dans une entreprise où je travaillais en fait vraiment là 6 jours sur 7 parce que je faisais le lundi après-midi puis le samedi matin. Donc très difficile pour voir la famille, voir les amis, tout ça. Et puis j'étais fatiguée tout le temps parce que.
Vous faisiez quoi, Ondine ?
Je suis livreuse.
D'accord.
Voilà. Et là, maintenant, les livreuses, donc aussi c'est des charges lourdes et puis on est fatigué et puis on a le temps de se reposer. On a le temps de faire plein de choses, d'avoir des rendez-vous, de et puis c'est super quoi, vraiment c'est je pourrais pas faire autre chose maintenant. Enfin vraiment ce serait difficile.
Mais vous travaillez combien d'heures par semaine, Ondine ?
Je travaille 40 heures par semaine.
Ah ouais, donc 10 heures par jour quand même.
Ouais, mais après c'est juste 3 heures de plus de 7 heures.
Oui, mais est-ce que votre salaire finalement, il a baissé par rapport à la période où vous bossiez 5 jours par semaine ?
Non, non, non. Non, pas du tout, parce qu'on a en plus on a des paniers repas qui sont comptés, donc on a 2 paniers repas du coup.
Et Ondine, est-ce que par exemple si on vous avait dit pour passer à la semaine de 4 jours, il faudrait être payé moins, est-ce que vous auriez accepté ?
Je pense pas.
Voilà, c'est ça.
Après c'est sur le salaire, c'est sûr, mais s'ils expérimentent tout en gardant les 10 heures par jour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont accepter parce que vraiment c'est une expérience. Vraiment génial, quoi.
Mais alors, après, Ondine, vous êtes un cas particulier parce que je pense qu'il y a peu de gens qui accepteraient de passer de 35 à 40 heures avec un jour de moins parce que vous travaillez 40 heures et 10 heures par jour. Il y a beaucoup de Français qui ne travaillent pas 10 heures par jour. Merci en tout cas, Ondine, d'avoir été avec nous. Mais, et est-ce que finalement, le vrai débat, Julien, c'est pas de revenir sur les 35 heures, tout simplement, quoi ?
Alors, il y a un débat qui est amené par les propos de Rémi, qui est l'organisation du travail. Et c'est tout à fait exact que, si tant est que ceci soit négocié avec son employeur, le télétravail, d'ailleurs, transformant intégralement la donne, d'ailleurs, pour les métiers qui peuvent être télétravaillables, tout ceci est formidable. Quant aux 35 heures, je pense en effet, mais c'est personnel, que c'est une erreur historique, tout comme être passé à 60 ans pour le départ à la retraite en 83, quand auparavant c'était à 65 ans. Et à chaque fois, c'est une critique française à l'égard du travail. Et ça, c'est vraiment triste et une tragédie. Mais si, ils aiment pas leur travail.
Enfin, moi, simplement,
certains n'aiment pas leur travail. Oui.
Les deux témoignages qu'on a eus, on a des gens qui veulent bosser, qui bossent plutôt plus. Et
c'est
qui ont réussi à aménager leur temps de travail et qui sont plus heureux.
Aménager le
donc
temps de travail,
votre c'est idée de les Français veulent pas travailler est démentie au moins par nos deux auditeurs.
Tu ne peux pas dire qu'il y a deux auditeurs qui te démontrent le contraire quand il y a ce sujet de centaines de milliers, voire de millions de personnes, des millions de personnes, ce n'est pas deux auditeurs, qui refusent de bosser un an ou deux pour payer les retraites et ne pas faire peser le financement de leur retraite sur leurs enfants.
Non, c'est un constat que les Français ont envie de travailler.
Daniel Riolo, est-ce que justement cette semaine de 4 jours, ça devrait faire l'objet d'un référendum en France? Tout le monde a un avis. Et puis alors là, la question, elle est simple. Pour ou contre la semaine de 4 jours ?
C'est une vraie question, là ?
Ouais.
Oula !
Moi, je suis pour. Le référendum.
Mais être pour, mais ça ne doit pas être imposé par les pouvoirs publics et encore moins
et
par le biais d'un référendum.
Les 35 heures, ça nous a été imposé.
Mais il a justement expliqué le contraire, qu'il fallait être au plus près, justement.
Ce que je veux, c'est qu'on ne l'impose pas. Je veux pas qu'on l'impose. Je veux
que
ça découle.
Les 35 heures, ça t'a été imposé.
Mais justement, je suis d'accord avec Julien, c'est une aberration. Je veux que ça découle d'une organisation interne à l'entreprise. Je trouve que c'est bon pour le salarié.
Mais ne légifère pas.
Bah, bien sûr.
D'accord.
Il faut être au plus près, en fait, du rapport entre le salarié, l'employeur et l'entreprise. Oui. Et là, quand on arrive à avoir effectivement ces accords, comme on a entendu à l'antenne ou comme Rémi nous donnait tout à l'heure, eh ben, c'est plutôt vertueux pour tout le monde, le salarié, le patron, l'entreprise et donc l'économie au global.
Le problème, c'est ceux qui vont être écartés encore de cette semaine de 4 jours, tout comme ils sont souvent ceux qui seront écartés aussi du télétravail.
Les indépendants, ils sont complètement de côté.
Donc, voilà, c'est ça. Ah ben, les indépendants, de toute façon, ils n'ont jamais droit à rien.
La boucherie voilà, sans eau, là, est obligée quand même d'être ouverte 5-6 jours par semaine si elle veut fonctionner.
Mais la boucherie, elle pourrait. Ah ben non, je suis désolée. Le boucher, s'il veut faire 4 jours, il fait 4 jours. S'il veut faire 2 jours, il fait 2 jours.
Il fait tout à fait ce qu'il veut. L'indépendant, il peut même faire 0 jours.
Il peut faire 0 jours s'il veut. L'indépendant, à la limite, il peut faire ce qu'il veut, mais effectivement, il ne sera pas payé. Quoi. Ben, ça, c'est...
Ben, oui.
Mais ça, après, c'est un choix.
Oui, c'est un choix, mais c'est deux mondes différents que le monde du salariat qui est de plus en plus protégé et le monde des indépendants qui n'a pas les mêmes garanties, c'est le moins qu'on puisse dire.
Rémi, vous avez plein de témoignages sur l'application RMC.
Oui, j'ai par exemple ce témoignage de François. La semaine de 4 jours a été mise en place par mon patron il y a un an. Au départ, j'étais contre et finalement, après un an, je suis complètement pour. Le message s'arrête là, j'aurais bien voulu savoir pourquoi, mais en tout cas... C'est la preuve qu'à l'expérimentation, les avis peuvent changer. Il y a Benjamin qui nous dit le problème de Julien et de Daniel, c'est qu'ils ne comprennent rien à la vie. Je suis désolé. Hein.
Ah oui,
c'est vrai.
Oui, c'est
tout à fait exact. Si les gens ne veulent pas travailler plus d'heures et plus longtemps, ce n'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est juste parce que ils ont des conditions de travail qui se dégradent au quotidien, des jobs sans perspective d'évolution.
Alors nous, je ne sais pas si on n'a pas compris, mais lui, il est sourd en revanche. Parce que lui, il a rien compris à ce qu'on a dit. C'est jamais ça qu'on a dit. Mais bon,
c'est fou quand même. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on ne comprend pas. C'est quand même dingue, Daniel.
Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de pas être d'accord. C'est juste que c'est pas ce qu'on a dit.
Bon, écoutez, très bien. Mais en tout cas, je remarque que tout le monde a l'air heureux de cette semaine de 4 jours. Oui,
un dernier message de.
Moi aussi, d'ailleurs. Pourquoi on me mettrait dans le camp de ceux qui ne sont pas pour?
Parce que vous êtes toujours contre.
Ne plaisantons pas. Là, c'est du mensonge.
Oui, c'est vrai.
Bon, merci.
Et il y a ce message de Chouette aussi. C'est Romila. Romila qui nous dit, et elle a raison de le dire. Pour les femmes, 3 jours de repos par semaine pour faire en plus de leur travail la lessive, le ménage, les courses, ça ne serait pas de trop.
Ben pour les hommes aussi, pour qu'ils fassent aussi le ménage,
la
course,
sauf que la charge mentale est complètement déséquilibrée.
Pour le moment. Mais le grand sujet, c'est le réaménagement dans les couples, des responsabilités des uns et des autres. On va faire des semaines spéciales pour les femmes.
Qu'on nomme des inspecteurs pour aller dans chaque foyer.
Je demande à voir si on donnait plus d'autorité aux hommes, si ça serait équilibré la charge mentale.
Je suis d'accord, mais on va pas faire des semaines spéciales pour les femmes, non?
Non, mais ça
c'est
va,
pas le sujet.
Tout ce qu'on fournit comme travail.
Non, c'est
ça. Bah non, mais on pourrait avoir des emplois de plus aménagés.
Elle pointe du doigt la charge mentale, et c'est vrai que les femmes.
Elle n'est pas également
elle gère travail et maison, et c'est
bon. Mais merci.
Que l'État contrôle tout, c'est bien. De A à Z, là.
Taisez-vous. On va voir la consultation de notre sondage. Rémi Barré, êtes-vous prêt à travailler moins pour gagner moins?
Non. Non, bah oui, mais je pense que c'est pas le fait de travailler moins, mais de gagner moins qui l'emporte.
Vous travailler moins pour gagner plus. Non, mais c'est sûr que là, la
rupture a été différente. Mais c'est non pour 70% de ceux
c'est
qui
normal,
sont
prononcés
sur nos réseaux sociaux.
Gagner moins,
c'est
bon. Pèse, ouais.
Allez, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, que vous pouvez écouter Estelle Midi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit grâce à nos podcasts. Vous allez sur rmc.fr, vous allez également sur l'application RMC ou sur vos applis de podcast. Dans un instant, Amélie Rozic, RMC s'engage pour vous. Et Amélie qui a enquêté en fait sur des produits, des fromages potentiellement contaminés à la bactérie et listeria. Il y a eu 5 cas graves en France. On vous dit tout dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h28 sur RMC, RMC Story, c'est le moment de vous aider sur RMC. Voici tout de suite, RMC s'engage pour vous avec Amélie Rozic.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous avez enquêté sur un rappel de produits potentiellement contaminés à la bactérie Listeria. Il s'agit de fromage.
Ouais, 5 cas graves de listériose ont été identifiés en fait en France à cause de cette infection qui est issue de la même souche de bactéries. 4 femmes ont accouché prématurément, c'est directement lié à ça. Hein. Et une 5e personne a développé une méningite. Ce sont des infections très graves. Elles sont toutes tombées malades entre avril et décembre dernier. Leur point commun, c'est d'avoir mangé des fromages au lait végétal de la marque J&Joy, c'est une marque française. Par précaution, un arrêté préfectoral a suspendu la vente de tous leurs produits la semaine dernière et l'entreprise a rappelé les produits achetés avant le 14 janvier. Donc si vous en avez, surtout, ils ne doivent pas être consommés mais rapportés au point de vente. Une consigne qui arrive un peu trop tard pour Manon, enceinte de 7 mois. Elle a mangé du fromage J&Joy il y a 15 jours.
Je suis assez angoissée parce que les symptômes ont 2 mois pour se manifester. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, au moindre petit truc, en fait, il faut que j'aille aux urgences ou là, il faut que je fasse des prélèvements, par exemple, juste parce que j'ai des petits symptômes grippaux et ça peut très bien être ça. Ça peut être autre chose. Et c'est pas exactement comme ça que je m'attendais à vivre ma fin de grossesse, on va dire.
Évidemment, Manon,
ça,
elle est
terrible.
Voilà, ça, oui, c'est terrible.
Ça, c'est horrible. Hein. Non, mais...
Manon, elle est très angoissée. Ça veut dire que voilà, pendant 2 mois, vous l'avez compris, hein, les symptômes peuvent se manifester par une simple fièvre, enfin vraiment quelque chose de très léger. Donc, il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital à chaque fois. Et le comble, c'est que Manon, elle avait justement choisi en fait des fromages végétaux pour éviter les risques sanitaires liés notamment au fromage, au lait animal pendant la grossesse. Écoutez.
Avant de les consommer, les produits, j'ai demandé à la marque si c'était bon. J'ai demandé à une sage-femme si c'était bon. J'ai cherché sur Internet, j'ai rien trouvé. Mais forcément, je culpabilise que s'il y a un problème, je sais que les conséquences sont graves.
Alors, si la cellule RMC s'engage pour vous a choisi d'enquêter sur ce sujet, c'est pour tenter d'apporter des réponses à Manon et à tous les consommateurs qui sont évidemment perdus et inquiets.
Et Amélie, vous avez enquêté donc et vous avez découvert que la marque a clairement manqué de transparence sur le sujet.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, alors que le rappel des produits date du 14 janvier. J&Joy a mis 1 semaine à communiquer l'information sur Instagram, 10 jours pour en parler sur sa page Facebook. Ça veut dire que si elle l'avait fait plus tôt, par exemple, Manon n'aurait pas mangé les fromages.
C'est une grosse marque, j'ai jamais entendu parler de cette marque.
Non, elle existe depuis 6 ans, mais c'est une marque qui fait...
En supermarché
Oui, qui se trouve en supermarché, les supermarchés bio, Naturalia, Biocoop, ce genre de supermarché. Mais c'est une marque qui existe depuis 2015 et qui fait donc est spécialisée dans les produits vegan, au lait d'amande, au lait de noix de cajou. Et donc les informations qui sont diffusées en plus depuis qu'ils ont commencé à communiquer sur leurs réseaux sociaux, elles induisent quelque peu en erreur, notamment dans un échange qu'on a pu voir entre un consommateur inquiet et la marque. J&Joy rassure, tous les produits qui ont été commercialisés ne présentent pas de danger pour la santé. On a été un peu surpris, donc on a demandé directement à l'entreprise qui maintient sa version, sauf que vous avez bien compris que c'est précisément l'inverse de ce que disent les autorités de santé, puisque un risque de contamination à la listeria existe bel et bien, et c'est d'ailleurs pour ça que les produits ont été rappelés.
Non mais c'est incroyable. Mais alors Amélie, évidemment vous avez alerté les ministères de l'Agriculture et de la Santé. Ils vous ont répondu quoi ?
D'abord, ils sont très étonnés de la communication de J&Joy qui est pour le moins ambigu. Il nous confirme que l'entreprise a bien connu un problème de contamination à la listeria de ses locaux et de ses produits. En avril 2022, J&Joy avait d'ailleurs déjà dû rappeler ses produits suite à la découverte de la bactérie listeria sur un lot de fabrication sur un seul de ses produits, en revanche à l'époque. Et donc, il y avait déjà eu un rappel. Et lors d'un autocontrôle le 26 décembre, la bactérie a été retrouvée sur une plinthe de leur usine de l'Oise en bas d'un mur. Voyez.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'elle était bien présente là-bas. Alors, les autocontrôles...
Il y a la bactérie dans les locaux, en
exactement.
Cas,
les autocontrôles, vous savez, ce sont des contrôles faits par l'entreprise, mais avec un expert indépendant, qui sont obligatoires dans l'industrie de l'agroalimentaire. Autre chose, lors d'une visite il y a 2 semaines, cette fois-ci des services sanitaires, et donc pas dans le cadre d'un autocontrôle, ils ont relevé des irrégularités et des manquements aux règles d'hygiène. On n'a pas voulu nous en dire plus parce qu'on nous dit que les investigations sont
déjà
toujours
beaucoup,
en cours et que c'est le secret de l'instruction. En tout cas, évidemment, nous continuerons de suivre cette affaire et de prendre des nouvelles de Manon. Et puis on espère, là il y a 5 cas graves, on espère qu'il n'y en ait pas plus, mais en tout cas on viendra vers vous.
Mais moi j'ai une question, pardon Amélie, mais c'est-à-dire que, et aujourd'hui ce fromage, on le trouve toujours dans les rayons ?
Non, ce fromage il est interdit de commercialisation.
Ah, tout de même ?
Ça veut dire que si ça peut arriver, et on l'avait vu dans le cadre de l'affaire Buitoni, notamment avec Marie Dupin, si jamais vous allez dans un supermarché bio et que vous trouvez des produits J&Joy, c'est interdit, donc d'abord... signalez-le aux autorités sanitaires, éventuellement à nous, RMC pour vous à rmc.fr, et puis surtout, évidemment, n'achetez pas.
Oui, mais sauf que par exemple, pour Buitoni, c'était juste la pizza Fresh Up qui était.
Tout à fait. Là, c'est
concernée.
Tous les produits.
D'accord, là c'est
tous
n'importe
les fromages,
quel fromage J&Joy.
J&Joy, c'est non.
Voilà, donc vous en comme. Évidemment, on le rappelle à ceux qui nous écoutent, si vous avez des fromages J&Joy chez vous.
Vous ne les consommez pas. Dans l'idéal, vous les rapportez au point de vente pour qu'il puisse y avoir ensuite, en plus, des analyses. Mais en tout cas, vous ne les consommez pas. Et si jamais vous en trouvez à l'achat, ça devrait pas être le cas. Donc, vous ne les achetez pas et
vous
surtout, vous dénoncez. Voilà.
Exactement.
Et une petite précision, il y a Didier Giraud, l'agriculteur des grandes gueules, qui nous écoute en ce moment et qui nous envoie un message. Salut Rémi, tu diras à Estelle et à tout le monde qu'il est interdit d'appeler fromage quelque chose qui est fabriqué avec du lait végétal.
Oui,
et une info de plus.
Alors c'est vrai.
C'est pour ça que tu
non, mais tout à fait.
Ça s'appelle du fromage.
Exactement.
Voilà.
Ouais. Ben en fait, ils peuvent dire, je crois qu'ils peuvent dire spécialité fromagère à base de lait végétal, mais le mot c'est fromage.
Voilà. Il a raison de
merci,
de
Didier.
Ça à Didier et on l'embrasse évidemment. On parle de quoi demain, Amélie ?
Alors comme que ça arrive parfois, c'est pas tout à fait acté. Ah bon, parce qu'on attend des réponses des uns et des autres. Donc ce sera en fonction de la meilleure réponse. Il faudra écouter demain. Ce sera avec Élie Grandjean.
Si tu manques un truc, j'ai un dossier, moi, d'un billet d'avion toujours pas remboursé.
Toujours pas. C'est pas vrai. Et alors, on en a,
ça fait deux ans. Mais non, c'est bon, c'est un autre.
C'est vrai.
Non, c'était un autre, celui-là.
Tu t'es encore fait arnaquer pour un billet d'avion.
C'est pour ça, si tu charges des trucs.
C'est un lien avec le Covid ou pas? Parce que.
Oui, allez, originellement.
C'est quelle compagnie?
RAM.
Ah oui, Royal Air Maroc.
Tu rames,
mais
quoi,
tu nous
fait.
En as déjà parlé de ça.
Ah, eh ben oui,
il me semble.
C'est, mais oui, mais c'est toujours pas résolu, ça fait deux ans. Merci beaucoup Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous tous les jours aux alentours de 14h30 dans Estelle Midi. Et puis bravo pour toutes vos enquêtes, Amélie.
Merci, voilà. Estelle.
Et c'est un vrai bonheur de vous avoir chaque jour dans l'émission. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui, tiens, on parlera des fresques porno. Vous savez, retirer des salles de cantine chez les internes en médecine. Et le gouvernement a décidé plus de fresques, ça c'est fini. On parlera de la grande démission des élus locaux et puis les demandes d'asile qui explosent en France et en Europe. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h39 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, c'est la dernière partie de l'émission. Et dans cette dernière partie, vous le savez, on vous donne à chaque fois les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables, commentés aujourd'hui par Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Julien Damon. Et nous allons commencer tout de suite, Rémi, avec le retrait du jour.
Oui, les hôpitaux français qui abritent des fresques à caractère pornographique ou sexiste dans les salles de garde vont devoir les retirer dans la concertation avec les internes. C'est ce que stipule une instruction ministérielle. Saisie en référé par l'association Oser le Féminisme au nom de la dignité des femmes, le tribunal administratif de Toulouse avait déjà ordonné, c'était en décembre 2021, le retrait de certaines décorations des salles de garde du centre hospitalier universitaire, le CHU, de la ville.
Mais c'est bien que le gouvernement saisisse le dossier d'hôpital en faisant ça, comme s'il n'y avait pas autre chose de plus important à faire. Thierry Moreau, ça va dans le bon sens, le retrait de ces fresques pour vous?
Je trouve ça ridicule. C'est une tradition. Moi, il me trouve que d'une fois dans une salle de garde. On peut trouver ça de mauvais goût, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais bon, voilà. Je pense pas que ce combat fasse avancer la cause féministe. Ou alors, à ce moment-là, il faut aussi masquer certaines fresques qu'on peut retrouver à Pompéi dans certaines salles parce qu'ils ont découvert il y a pas très longtemps une maison qui était en fait une maison de passe où il y avait des fresques magnifiques et il faudrait les masquer, ou dans les musées masquer certaines photos. Enfin, je veux dire. Voilà, je pense que, comme vous l'avez dit très justement, il y a d'autres combats à l'hôpital que de masquer les fresques qui amusent ou pas les carabins dans leur salle de garde. Voilà, je trouve que c'est une fausse polémique et je trouve ça stupide.
Je vous sens très dubitatif, Julien Damon, sur le sujet.
Parce que je crois que c'est pas un sujet si simple que ça, parce que vous avez des jeunes étudiantes en médecine qui peuvent être choquées aujourd'hui, c'est ainsi, par de telles images ou de tels chants aussi, parce que les carabins aiment aussi la gaudriole et les chansons un peu olé olé. À l'inverse, je pense que dans ces métiers que l'on apprend, on va être confronté à des choses horribles.
C'est ça.
Alors qu'un peu de pornographie et de chansons un peu porno, elles aussi.
Le porno, ça détend.
C'est leur salle. Les patients n'y ont pas accès.
Ils se détendent entre eux. Ils racontent des choses ignobles sur les patients.
Le porno, vu ce qu'on en sait maintenant.
Non, mais c'est pas le porno.
Ce soit quelque chose qui détend.
Ils sont pas là en train de projeter des films pornographiques. Ce sont des dessins pornographiques. Ils mettent des dessins de Villemin, si tu veux. C'est de l'art, dans une certaine mesure. Bon, après ça, c'est de l'ordre de la tradition, je trouve. Et honnêtement, l'argument d'Estelle est parfait. Franchement, est-ce que vraiment c'est une priorité que de faire perdre du temps à des administrations aujourd'hui débordées par 1000 problèmes vitaux bien plus importants que sont les hôpitaux, avec des sujets secondaires dont devraient se débrouiller entre eux les jeunes étudiants?
Absolument.
Daniel Riolo, vous êtes plutôt pour, manifestement.
Non. Ah. Je ne sais pas. J'écoute et effectivement, Julien vient peut-être de me convaincre. Ah. En tout cas, sur le.
Il vient décorer ton bureau.
Non, mais si ça gêne, c'est un problème.
Non, mais sur le point qui est de dire qu'effectivement, il y a d'autres préoccupations, certainement. Maintenant, je suis pas trop pour la société du ressenti. En fait, je suis très partagé parce que si c'est pour donner raison aux wokistes qui veulent tout revoir et tout canceller, ça m'emmerde. Dans le même temps, toutes les traditions ne sont pas forcément bonnes et des dessins pornographiques que ça puisse choquer dans une salle de garde,
Bon, ok. En fait, j'entends les deux parties sans réellement réussir à me décider. Alors quand c'est comme ça, bah, je suis plutôt pour qu'on laisse comme c'était et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et puis on a le droit aussi de pas avoir des opinions tranchées tous les jours. Donc excusez-moi.
Après, il y a c'est peut-être bien la première fois que ça arrive chez vous.
Après, ouais, et donc c'est pas bien peut-être.
Ben non, je préfère quand vous êtes tranché.
Après, il y a peut-être un sujet. Il y a peut-être un sujet après sur l'hypersexualisation dans le monde de la médecine, l'hypersexualité des étudiants en médecine.
Et le bizutage, Rémi, le bizutage qui parfois fait.
Justement,
c'est fini ça.
Je dis ça parce que.
C'est bien ce que je dis, c'était une tradition. Donc que ce soit fini, c'est pas plus mal. Pardon, Rémi.
Je dis ça parce que, encore récemment, c'était en mars 2021, l'Association nationale des étudiants en médecine, dans une enquête, avait dénoncé le harcèlement sexuel très fréquent lors des stages de médecine. Près d'un tiers des étudiants ont été victimes de harcèlement sexuel.
Pour moi, c'est un autre sujet, le bizutage.
Oui, mais ça peut entrer dans le cadre. Oui, mais c'est un sujet de décoration.
Oui, mais c'est pas comme si c'était largement le cadre des écoles. C'est pas bien, évidemment. Il faut lutter contre ça.
Ça dépasse largement le cadre des écoles de médecine, le bizutage. Je suis désolé.
Oui, voilà, c'était particulier.
Bon, c'est pas parce qu'il y a des fresques au mur qu'il y a des bizutages. Je suis désolé.
Ça participe d'un contexte et d'un climat.
Oui, mais c'est un climat particulier. Les études de médecine, t'es confronté à la mort, t'es confronté à la vie.
Oui, et donc parce que t'es confronté à la mort, donc t'as le droit de choper la secrétaire sur le bureau.
C'est pas ce qu'on peut dire. Il y a pas de secrétaire dans les salles de garde, première chose. Non, mais plus sérieusement, le truc, c'est que je trouve parfaitement compréhensible, rationnel, ça veut pas dire que c'est forcément justifiable, que des étudiants qui sont confrontés à des choses ultra dures, tu peux difficilement faire plus dur, s'éclatent en racontant n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi.
Pas en se touchant les uns les autres.
Mais en chantant. Mais les fresques porno, faut voir ce que c'est rien par rapport à tout ce que tu peux trouver sur Internet en permanence.
Mais oui.
Ok, alors, très bien.
Le ras-le-bol. On va décorer le décor de Estelle Midi avec ça, Matt.
C'est ça, le ras-le-bol du jour.
Depuis le second tour des élections municipales 2020, 901 élus des communes de Loire-Atlantique ont démissionné. C'était seulement 880 durant les 6 ans de la précédente mandature.
Ah oui,
vous me suivez? Bah oui, 901, donc en 2 ans, on va dire, alors qu'il y en avait 880 en 6 ans. Ce sont à 85% de simples conseillers municipaux ou communautaires, surtout de petites et moyennes communes qui rendent leur écharpe tricolore, plus rarement des adjoints et un seul maire. C'est un tableau dressé par l'Association des maires de France 44, mais on peut l'élargir à de très nombreuses autres départements
régionaux. Et pourquoi?
Le ras-le-bol, parce que c'est la plupart, on parle de conseillers municipaux, communautaires, des petits élus, donc ils touchent juste un...
Ah non,
ils sont bénévoles. Non, mais il y a un dégrèvement aussi pour la présence lors des conseillers municipaux.
Non, attends, je suis élu municipal, je peux te le raconter.
Il n'y a pas de dégrèvement.
Non, je suis élu municipal dans l'Oise, dans un tout petit village.
Donc c'est du bénévolat.
Un petit peu de sous. Tous les autres, c'est du bénévolat. Tous les autres, c'est du bénévolat. C'est pas le cas dans les grandes villes.
Mais moi, j'aimerais savoir d'où vient le ras-le-bol.
Le ras-le-bol, c'est en permanence, parce que tu es agressé par tes concitoyens. Tu as des responsabilités relativement importantes. T'es pas forcément remercié. Il faut voir que la France tient par rapport à ce bénévolat-là, qui est un bénévolat politique, ou un bénévolat d'action publique, c'est pas que le bénévolat associatif, et tu trouves pas une grande reconnaissance de tes concitoyens. Au contraire, t'as des demandes qui s'accumulent, et avec des responsabilités qui pèsent sur toi.
Et t'es corvéable à merci. C'est-à-dire, tout le monde vient te voir quand tu fais ton marché, en te disant, monsieur machin, et mon caniveau.
Et moi, je pense que les agressions, c'est le vrai argument.
Il y a pas que ça.
Il y a plus que le maire qui s'est agressé, mais on va appeler ça sur un terme plus général. Il y a de l'incivilité et l'incivilité à l'endroit.
C'est mieux de le dire comme ça.
Plus généralement, c'est très peu agréable. Quoi. Voilà, tu fais ça gratuitement, bénévolement, et t'as des gens qui t'arrêtent et te posent 1000 questions, te parlent mal, pour être clair, voire t'agressent plus largement.
D'où l'idée. Plus vite, plus faire tes courses, quoi.
D'où l'idée de la réflexion sur le statut d'élu, qui est un vaste sujet.
Ça vous étonne, vous, ce ras-le-bol, Daniel, ou pas du tout? Vous pourriez être étonné, vous dire, c'est fou.
Le nombre, oui.
C'était mieux avant.
Le nombre, oui. Mais ce qui ne m'étonne pas, c'est ce que vient de décrire Julien, c'est le contexte qui pousse beaucoup de gens à ne plus vouloir, on peut appeler ça une forme de dévouement, c'est-à-dire d'aller servir la petite commune, la municipalité, et de se dire, je vais rester à la maison, parce que de toute façon, si c'est pour me faire agresser ou qu'on me parle mal à cause de ça, et parce qu'on est dans un contexte toujours plus violent dans ce pays.
Ça, c'est vrai.
Finalement, on ne devrait pas être étonné.
Oui, mais alors, est-ce qu'il faut, est-ce que ce serait différent si on défrayait justement les conseillers municipaux, parce que tu te dis, je me fais insulter, alors, mais au moins c'est pour de l'argent, quoi.
J'ai vérifié effectivement dans les communes de moins de 100 000 habitants. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, pour les simples élus municipaux, effectivement, pour la grande majorité d'entre eux, il n'y a aucun revenu, c'est du bénévolat.
Et donc, à un moment, tu te dis...
Combien tu ferais payer le pauvre con, par exemple?
Non, mais j'en sais rien.
Alors, combien je peux...
Non, mais j'en sais rien.
Je prends 100 balles, si c'est pour un pauvre con sur le marché, ça passe.
Tu fais ça parce que tu as envie d'aider ta commune, a priori.
C'est ce que je disais, une sorte de dévouement.
Si tu y passes du temps, etc., et qu'en plus, tu n'es pas payé... Ouais. Si t'es payé, ouais, à la limite, tu te dis, bon, allez.
Bah, c'est pour ça que je te demandais à combien t'évalues l'insulte.
Oui, je pense que c'est pas tout à fait la même chose.
Bah oui, non, ça ne tranchera pas comme ça. Il faut une vraie réflexion sur justement le statut de l'élu, le respect, la protection quand ils sont insultés.
Ah oui, oui, oui.
Protection juridique notamment. Enfin, il y a plein de choses à discuter, mais effectivement, ça pourrait être une voie de sortie.
Et surtout que plus personne ne veut être élu. Donc en fait, s'il y avait au moins un petit salaire, les gens, ça lui pousserait plus à avoir ses fonctions.
Je ne suis pas forcément favorable à ce qu'il soit rémunéré, parce que le bénévolat, c'est bien, et puis ça fait tenir un peu le
monde.
Oui, peut-être aussi, mais je suis pas à mes petits camarades. Ils sont pas là non plus dans les Anses, là, c'est un petit village de l'Oise et vraiment, bon, vive Shell en Valois, mais qu'on peut appeler aussi Shell sous subvention, mais c'est un autre sujet. Eh bien, là, vous avez des gens qui ne réclament pas ça, ils réclament simplement la possibilité de faire des choses sympas pour tout le monde. Le grand truc, c'est justement, je pense que beaucoup de nos contemporains sont persuadés qu'on est payé à ce titre, on leur doit des comptes. Et ben, c'est pas le cas.
Et tout ça s'inscrit également dans le climat où on entend sans arrêt des gens dans la rue où les politiques braillards sur les plateaux entretenir l'idée trop payé, les politiques sont trop payés, ouais, bah bientôt il n'y en aura plus du tout, parce que ceux qui sont au gouvernement qui pourraient bosser dans le privé pour gagner deux fois plus, on continuera de leur taper dessus, comme les députés d'ailleurs. Les députés, là, c'est la même chose, puisqu'on pense qu'ils sont trop payés, bah, ils iront bosser ailleurs, plus personne ne voudra être élu, et on verra comment marchera notre pays et la République.
Les demandes du jour, Rémi.
Jamais la France n'a eu à traiter autant de demandes de droit d'asile sur son sol. 154 597 en 2022. C'est 16,5% de plus qu'en 2021. Le niveau de 2019, c'est la dernière année de référence avant Covid, avec ses 151 283 demandes d'asile, est dépassé.
Est-ce qu'on connaît les raisons de ces demandes d'asile?
La plupart du temps, alors ça évolue d'année en année, mais les demandes d'asile viennent pour la plupart du temps. Alors, c'est paradoxal, elles sont refusées en général. C'est les Albanais, il y a eu beaucoup d'Afghans aussi. Les Afghans, on peut comprendre, surtout l'évolution politique de ces derniers mois. Pour les Albanais, par exemple, la plupart sont refusés parce qu'il n'y a pas de raison, selon les autorités, évidemment.
À part économique, évidemment.
Économique, mais justement, ce n'est pas le droit d'asile. Non, ça ne rentre pas dans ce cadre-là.
On fait quoi, Julien Damon? Parce que on peut imaginer qu'en fait ce chiffre il va être encore plus haut l'année prochaine, puis encore plus haut.
Je pense que c'est extrêmement préoccupant. Alors évidemment c'est un sujet extrêmement sensible. Tout le monde se bagarre pour dire il y en a trop, il n'y en a pas assez. Je suis pour les exilés, je suis contre les exilés, etc. Mettons ça parfaitement de côté. Je pense qu'il est bon de dire que la France est confrontée à une nouvelle forme d'immigration, en tout cas une forme d'immigration qui s'intensifie par la demande d'asile, et que cet asile est un rien dévoyé pour des raisons économiques albanaises, dans le cas albanais, et qui ne correspond plus à ce pourquoi la France a adhéré aux grandes conventions sur l'asile. Mais c'est un sujet international,
c'est pas
qu'un sujet français.
Ah, on dit qu'on étudie les dossiers, il y a des critères.
Je pense juste qu'il faut revoir les critères et que la demande d'asile économique devrait pouvoir être extrêmement rapidement mise de côté.
Exactement.
Alors que la France a fait ça, et les pays ont fait ça, Convention de Genève, etc., pour des raisons de
trac politique. Alors, je te dis n'importe quoi. Si tu as une demande d'asile d'un Albanais qui est chef en cuisine, par exemple, et que tu as une pénurie de main d'œuvre, tu fais quoi?
Mais c'est un sujet d'immigration économique. Donc,
ça n'a rien à voir avec
la demande d'asile.
C'est pas la demande d'asile politique.
Mais en fait, est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas? C'est ça que je veux dire.
Non.
Mais c'est pas les mêmes bureaux. C'est pas
le sujet. C'est est-ce qu'on est, nous, oui ou non, on a la capacité, oui ou non, de devenir un réfugié? C'est ça la question, un réfugié politique. C'est pas de savoir si on peut devenir un
réfugié. Et il y a des critères.
Mais l'économie, elle compte aussi.
Et alors, à ce moment-là, on fait une politique d'immigration.
Là, c'est la politique d'immigration, c'est pas la même chose.
Et de l'autre, il y a la demande d'asile. Le problème, c'est que la demande d'asile devient une filière de la demande économique.
Il faut que la France.
C'est pas normal.
Il faut que la France reste une terre d'accueil pour les pays où il y a des gens qui sont en guerre, où leur vie est menacée et où notre terre des droits de l'homme est d'accueillir ces gens-là. Mais effectivement, il faut pas que par ce biais-là, et l'Albanie est un très bon exemple, des gens rentrent pour justement avoir une meilleure situation économique. C'est un sujet différent. Il faut avoir d'un côté une immigration économique, le gouvernement est en train de réfléchir sur des quotas, sur certains métiers
Mais c'est plus facile de rentrer qu'une demande d'asile, en fait, tu comprends même qu'ils ont fait cette démarche.
Eh bien, ça ne devrait pas. Le seul critère pour une demande d'asile, c'est est-ce que oui ou non, dans le pays d'origine, votre vie est en danger? Est-ce que vous êtes maltraité? Est-ce que vous êtes discriminé? Est-ce que vos enfants sont en danger? Est-ce que les droits de l'homme sont en danger?
Peut-être que dans les critères, tu pourras avoir, est-ce que vous mourrez de faim chez vous, simplement pour des raisons économiques, avoir une demande d'asile.
C'est autre chose.
Mais ça, c'est ultra problématique parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui pourraient prétendre à venir disposer de cet asile économique en France. Donc c'est ingérable. Et le problème, c'est que c'est quand même ce qui se profile si on ne revoit pas d'une manière ou d'une autre les critères de l'asile.
Donc on doit être plus dur pour vous, Daniel?
Il y a des critères qui existent, oui, il faut être plus dur. Michel Rocard, 1989, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais elle doit prendre sa part.
Voilà.
Voilà. Mais oui, mais
c'est exactement, voilà, je pense qu'on a tout dit.
Oui, sauf que encore une fois, à un moment, il y a aussi de l'immigration économique.
Je pense que la France a largement pris sa part.
Et c'est de l'immigration
dans les dernières décennies.
Oui, mais c'est de l'immigration régulière. Ici, on a.
C'est un autre souci, Estelle. C'est pas.
C'est un autre souci.
Il faut sortir une autre feuille, là, Rémi. Il faut qu'il trouve une autre feuille qui dise immigration économique. Ce n'est pas la même chose. Là, on parle des réfugiés politiques. C'est pas pareil.
Michel Rocard, donc au début des années 90, les demandes d'asile, c'était 10-20 000.
C'est ça. Voilà. Les temps change et aujourd'hui on fait face à une immigration qui est.
Les temps changent, mais le climat change,
importante.
Les situations politiques changent.
On ouvre tout et puis on laisse rentrer tout le monde.
Les pays où les droits de l'homme sont en danger sont de plus en plus nombreux. Donc notre travail, c'est aussi de bien examiner ces demandes d'asile pour qu'elles ne soient pas dévoyées, mais qu'on accueille malgré tout les gens qui sont en danger dans leur pays.
Voilà. Et les situations.
On pouvait renvoyer chez eux tous ceux qui commettent des crimes ou des délits, ce serait déjà une bonne chose. On a du mal avec ça.
On a du mal parce qu'il
n'y
a pas d'accord entre les pays.
Bon, alors, moment, ça va être inextricable. Alors on fait plus rien.
Mais non.
Mais tu vois bien que c'est inextricable. Quand t'as un pays avec lequel t'as pas d'accord, tu peux pas renvoyer.
Demande aux Français et puisque les sondages d'opinion, c'est là-dessus que le gouvernement doit se décider visiblement, puisque.
D'accord. Donc on demande aux Français pour l'immigration, mais pas pour les retraites. Non, mais moi je veux bien qu'on soit
jaloux,
mais
c'est exactement moi qui étais en train de vouloir te prendre à ce piège-là, puisque visiblement c'est les sondages d'opinion qui doivent guider la politique française. Fais les sondages là-dessus et tu vas voir si les Français vont être d'accord pour laisser rentrer des gens.
Encore une fois, tu peux aussi à un moment avoir d'autres critères que juste le critère politique. T'as aussi de plus en plus de pays où la situation climatique.
L'asile politique, c'est un dossier, c'est un critère. Voilà. L'immigration économique, c'est autre chose. Non.
La situation climatique, elle peut être un critère. Voilà, si quelqu'un n'a plus à manger chez lui, il peut demander à avoir l'asile en France. Ça doit être un critère aussi.
Moi, je suis hyper réservé comme Daniel là-dessus. L'asile politique, c'est vraiment des gens qui sont menacés de mort par les pouvoirs publics.
Par une situation climatique.
Oui, mais alors à ce moment-là, il faut prendre en considération le fait que ce sont potentiellement des centaines de millions de personnes qui pourraient demander l'asile.
Mais c'est ce qui va arriver, Julien.
Mais c'est pas ce qui va arriver.
Très bien, alors comment on va faire? Alors on laisse rentrer tout le monde alors?
Pour lesquels, je vous assure.
On étudie au cas par cas.
Ceci n'est même pas possible. En France, nous sommes bien plus généreux que ce qu'on entend dire généralement, en particulier par rapport à d'autres pays qui ont complètement changé d'orientation. Je pense aux pays nordiques, je pense très singulièrement au Danemark,
la Grande-Bretagne. La gauche et le programme de la gauche au Danemark,
il est plus dans
le programme de la gauche au Danemark, c'est plus light que le Rassemblement national en France.
Oui, c'était tout à fait.
En Suède, c'est pareil, mais nous en France, allez hop, on ouvre, on laisse rentrer tout le monde.
En Allemagne, ils ont accueilli 1 million de personnes.
Ouais, mais d'accord, mais ils accueillent beaucoup moins aujourd'hui.
Regarde voir le programme de la gauche au Danemark, tu vas voir.
Il faut terminer pour dire un truc sur les gens qui instruisent la demande d'asile, c'est-à-dire tout service public qui instruit la demande d'asile. Ce sont des gens qui, globalement, font très bien leur boulot et qui n'ont pas forcément, eux, tous les moyens pour le faire.
Et c'est bien de le dire et terminer avec ça. On va tout de suite rejoindre Vincent Moscato, le super Moscato Show. Salut Vincent.
Non, mais ça marche pas, mon poulet.
Si, ça marche.
T'entends rien du tout.
Nous, on t'entend bien, là. On va couper Vincent, parce que je le sens pas.
Je sais pas pourquoi, mais ça peut déraper.
Il y a des moments où il vaut mieux couper un micro. Parce que là, je... On l'a, Vincent, ou on l'a pas?
Non, on l'a pas.
Il y aura plein de débats absolument géniaux sur le foot et le rugby, notamment. En fait, j'en sais rien du tout, mais
sur le sport en général. Il y a quand même des chances que ça tourne autour de ça. Voilà.
Je pense.
Et ça va durer 3 heures.
Oui, mais parce qu'en plus c'est l'année de la Coupe du Monde de rugby, donc a priori ça va. Voilà, on va parler rugby chez Vincent le Super Moscato Show, 15h-18h, et nous on se retrouve demain dans Estelle midi 15h.
J'ai le programme, si tu veux, mais on n'a plus le temps.
Une excellente. Ça parle de quoi? Vas-y.
Ah bah non, mais j'ai fermé les blagues maintenant, je l'avais sous les yeux.
Super, vous avez mis l'eau à la bouche.
Je pense qu'il y a un sujet sur l'OL.
Ah, sur Lyon.
Est-ce qu'il faut virer tout le monde et tout reprendre?
Ah oui, d'accord.
Voilà.
LOL.
C'est le seul sujet que j'ai eu le temps de voir avant de refermer.
Mais ça, c'est passionnant et ce sera 15h.
C'est passionnant.
On se retrouve demain. Salut à tous et bonne fin de journée.